Bonjour à tous, bienvenue dans le Face à Face. Le Face à Face, c'est une toute nouvelle émission dans laquelle j'interview des personnalités marquantes, importantes du secteur de l'immobilier, du logement, de la construction, du bâtiment. Pourquoi ? Eh bien parce que ces personnalités ont des choses à dire, beaucoup de choses à dire, et elles représentent un grand nombre de professionnels. Pour cette première, je suis au siège de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, pour interviewer Olivier Salleron, son président. Alors, vous savez, le BTP va mal, il est entré en récession en 2024, 35 000 emplois ont été supprimés. Quand le BTP va mal, eh bien c'est toute l'économie qui vacille, puisque c'est 10% du PIB, c'est 215 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, pour vous donner une idée. Voilà pourquoi c'était important pour moi de venir aujourd'hui rencontrer Olivier Salleron et surtout discuter avec lui. Je suis donc avec Olivier Salleron, le président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. On est dans le siège de la FFB, dans le 16e arrondissement. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Ravi d'être avec vous. Merci de nous recevoir.
Merci à vous.
Alors, on va parler de plein de choses ensemble. On va parler du secteur du bâtiment qui va mal. On va parler aussi de votre fonction, président d'une des plus grosses organisations qui représente les entreprises du bâtiment. Et puis, on va parler aussi politique, voilà, actualité, votre parcours. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous décrire en quelques phrases ?
Ben avant tout, je suis entrepreneur, donc je co-dirige une entreprise familiale dans le Périgord, en plomberie, chauffage, d'hygiénie climatique, d'une quarantaine de personnes. Il y a deux entreprises en une. Et voilà, donc je suis un vrai professionnel. J'ai commencé ma carrière plutôt dans l'informatique, donc vous voyez, on peut aussi être innovant et passer vraiment à nos métiers du bâtiment. Et donc voilà, depuis maintenant une trentaine d'années. Bien sûr, j'ai voulu évoluer en défendant notre secteur, en aidant mes confrères, et puis une façon, progressive, je suis passé du département à la région Nouvelle-Aquitaine en présidence, et je suis président national de la Fédération Française du Bâtiment depuis le 20 mars 2020.
Ouais. Juste avant.
Deux jours et demi après le confinement.
Ah oui, oui,
voilà, donc le parcours a pas été un long fleuve tranquille, évidemment, mais en tout cas, voilà, une fierté vraiment de représenter en tout cas ce secteur du bâtiment.
Alors justement, si il y a des artisans du bâtiment, des ouvriers du bâtiment qui nous écoutent, comment vous leur décririez votre mission ? Quelle est votre mission ?
Ben, la fédération, c'est surtout d'accompagner, de renseigner, de soutenir, mais aussi de monter en compétence à l'expertise dans tous les métiers, mais aussi ce qu'on appelle les secteurs régaliens, c'est-à-dire la formation, le juridique, tout ce qui peut être présent dans une entreprise. Et la fédération, c'est ça. La fédération, c'est quand même des milliers d'élus, des milliers de mandataires, mais aussi 800, 900 salariés, experts, ingénieurs, mais aussi qui accompagnent les entreprises partout sur le territoire. Nous avons 101 fédérations sur l'ensemble des départements, et je n'oublie pas les Outre-mer, nous avons 8 implantations à l'Outre-mer, que je salue d'ailleurs, parce qu'il y en a forcément qui nous écoutent, et je suis très fier d'eux, plus voilà des délégations régionales, ainsi que 33 métiers. Donc voilà, c'est tout, ce secteur du bâtiment, toute cette filière technique, mais aussi de gestion, parce que la technique, c'est beau, c'est souvent par là qu'on rentre dans une fédération, pour progresser, mais aujourd'hui, on le sait, la gestion d'une entreprise, c'est aussi beaucoup de choses, et quelquefois un peu trop administrative.
Et puis, on va le dire aussi, moi je connais très bien, j'ai un papa qui est dans le bâtiment, l'administration, c'est pas son fort. Il sait pas faire, il connaît pas. C'est souvent ça dans ces métiers-là.
Je crois on sort d'une année olympique, mais je crois que le bâtiment est champion olympique des normes, des réglementations. Et puis, on veut en annuler une, en enrober trois dessus. C'est une instabilité chronique, on pourra l'aborder, mais sur tout un tas de réglementations. Et aussi, malheureusement, qui régissent nos marchés. Une instabilité totale chaque année. On attend le projet de loi de finances qui sort au mois de décembre pour savoir comment vont être mangés ou pétris nos clients le mois d'après. Et donc derrière, oui, c'est toute une prévision à faire. C'est pas facile, et c'est pour ça que les entrepreneurs du bâtiment, et surtout, bien sûr, vous en avez parlé, des salariés, des ouvriers, des techniciens, se doivent d'être très agiles, peut-être plus que dans d'autres secteurs. Et bon, je suis partie prenante, donc j'ose le dire, et je suis content de le dire, oui, c'est un secteur d'intelligence et d'agilité.
Alors, aujourd'hui, il y a 52 000 entreprises qui sont adhérentes à la FFB. Il y a combien d'entreprises de taille artisanale? C'est quoi? C'est la majorité?
C'est plus que la majorité, ouais, c'est les deux tiers. Les deux tiers, donc il y a 35 000 entreprises à la FFB qui ont moins de 10 salariés sur nos 52 000. Donc vous voyez, on est la maison des artisans, on aime aussi à le dire, aussi, voilà. De l'artisan qui travaille tout seul, à la TPE, à la PME moyenne française que connaissent tout le monde, et puis à la plus grosse PME, aux ETI avec plusieurs milliers de personnes, mais aussi nous avons, et nous en sommes fiers, les majors, les plus grandes entreprises françaises, donc vraiment... Le panel est très très large, mais on a un dénominateur commun, on l'a dit à l'instant, la technique et la gestion. Donc je crois que il faut que tout ça ruisselle entre les uns et les autres. Et moi je suis fier d'être président de la fédération parce qu'il y a cette diversité, à la fois en termes de territoire.
Mais c'est pas du tout la même chose, hein.
Mais construire un bâtiment, hein, dans ces 33 métiers. Eh bien, qu'on soit tout seul ou avec 2-3 salariés ou un apprenti, ou qu'on soit plusieurs milliers, eh bien, à un moment donné, il y a le bâtiment, à un moment donné, il y a le chantier. Donc, là-dessus, on se retrouve tous.
Alors, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était, je crois, il y a 2 mois, lors de votre dernière conférence de presse. Vous avez annoncé des chiffres qui n'étaient pas bons du tout. Le bâtiment, vous l'avez dit, est en récession depuis 2024, début d'année 2024. 35 000 emplois ont été supprimés. Quand on s'est vu la dernière fois, voilà, vous me disiez, bon, on n'avait pas encore de budget. On en a un maintenant. Vous allez me donner votre avis dessus tout à l'heure. Mais vous me parliez d'un risque d'une suppression de 100 000 emplois. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que il y a toujours ces 100 000 emplois, donc dans tout le secteur, qui sont menacés en 2025 selon vous?
Bien sûr, quand on s'est vu il y a 2 mois et demi, c'était juste après la censure, donc vraiment une instabilité totale. Et puis on arrivait un peu au bord du vide, hein, on savait pas ce qui allait se passer. Déjà l'année 2024, et vous l'avez dit aussi, a été mauvaise, très mauvaise, -5, -6% de chiffre d'affaires. Eh bien oui, c'est 14 000 entreprises défaillantes et 35 000 salariés en moins. Hein, dans l'année 2024. Donc là, on peut dire qu'on était pratiquement au fond du trou. On pouvait l'être encore plus si ce budget 2025 ne fut pas voté il y a 3 semaines à peine. Hein. Là encore, début, jusqu'à fin janvier, on était aussi dans une expectative totale. On savait pas.
Il y avait un risque de motion de censure.
Bien sûr. Et surtout, on ne savait pas si les mesures, il faut le dire, quand ça va dans le bon sens, qui avaient été prises dans ce budget censuré en décembre, soit les mêmes fin janvier de là il y a quelques semaines. Eh bien tant mieux, tout a été conservé. Donc d'une phase vraiment pas du tout optimiste après cette censure de début décembre, eh bien on est passé dans une phase plus optimiste, mais sur le long terme. C'est-à-dire un optimiste réaliste, j'adore dire ce terme-là, et actif. C'est-à-dire que on a montré à l'ensemble de nos adhérents qu'à la fois sur le neuf avec ces mesures-là, à la fois sur la rénovation énergétique.
Donc le PTZ, hein, par exemple, sur le prêt à taux zéro.
Le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, mais aussi sur les maisons individuelles. Et ça, les maisons individuelles, c'est important parce que c'est aussi ce qui fait travailler nos artisans, nos petites structures. Sur une maison individuelle de 100 mètres carrés ou moins, c'est pas des grosses entreprises qui bossent, hein, c'est souvent des artisans, quelquefois travaillant seuls, donc beaucoup d'activités. C'est aussi, on l'a vu, la donation, ça permet aussi à ceux qui ont un peu plus les moyens et les familles de donner aux plus jeunes pour qu'ils construisent une maison neuve ou en tout cas achètent un bien pour beaucoup le rénover.
Est-ce que ça va concerner beaucoup de personnes, cette mesure-là?
Peut-être pas, mais en tout cas plusieurs milliers.
D'accord.
Prenons tout.
C'est à prendre.
Vous savez, quand on me disait, quand je suis arrivé il y a quelques années, oui, mais alors il faudrait faire ça, et cette mesure va faire rebondir le bâtiment. Moi, je crois à plusieurs mesures, hein, sectorielles.
On en est là, en fait.
Et on en est là. Alors, il nous en manque une grande, dont on va parler tout à l'heure. Mais pour finir sur ce PLF, ce qui est très positif, il y a eu 200 millions d'euros de plus pour la construction du logement, des logements sociaux,
ouais.
qui est aussi au plus bas. Il y a 80, 85 000 logements, alors que normalement, il en faudrait 120 à 125 000 par an. Donc, le delta, malheureusement, le trou se creuse pour nos concitoyens.
Il y a de plus en plus de demandes aussi.
Les plus modestes, ouais. et effectivement. Voilà. Et à côté de ça, à côté du neuf, eh bien, maintenir une MaPrimeRénov, allez, même si elle a baissé,
oui, elle a baissé.
De 700 millions d'euros, à un niveau qui nous paraissait acceptable pour cette année 2025, par rapport à ce qui avait été consommé les années précédentes. Quand ils ont voulu nous en piquer 700 millions d'euros de plus mi-janvier, je peux vous dire que là, on est monté au créneau et on a arraché le fait qu'elle soit pas essorée encore plus. Donc, cette MaPrimeRénov, c'est pareil. Elle fait travailler à la fois nos artisans, nos TPE, nos entreprises moyennes, et nos très grosses entreprises, quand il y a plusieurs centaines de logements à rénover à un seul coup, j'allais dire, on a besoin de l'ensemble des... Donc ça, tout ça, c'est positif. Donc, dans l'état d'esprit, vous l'avez dit, il y a deux mois et demi, où on était vraiment...
Vous voyez le pire, en fait.
Ouais. Alors, moi, mon rôle, ce n'est pas d'affoler tout le monde, c'est de dire les choses qui ouais. peuvent se passer. Et là, c'était vraiment, on était à la limite de dire, réduisez la voilure, hein. Vraiment, mais très fortement. Donc là... Écoutez, on a un espoir, c'est pas un espoir puisque c'est voté, ça y est, c'est enclenché. Maintenant, on le sait, le bâtiment c'est un paquebot, ce qui a été signé ou ce qui va être signé dans les prochains mois, on ne trouvera réellement, en tout cas pour le neuf, que des résultats pas avant la fin de l'année, mais ça permet aussi aux entreprises de garder leur effectif, de garder leur outil de production, et puis en attendant peut-être faire un peu plus de rénovation ou de rénovation énergétique, grâce à MaPrimeRénov. Donc tout ça, c'est un medley.
Équilibré un petit peu.
Je parlais d'intelligence et d'agilité tout à l'heure des entreprises du bâtiment. Ben, c'est la personne qui travaille seule jusqu'à celui qui a plusieurs milliers. Ben, il faut penser à son avenir, il faut faire la prospective. Et là-dessus, ça nous... Allez, oui, ça nous redonne un optimiste réel. Et là où il manque vraiment, j'allais dire, la mesure qui a été abandonnée, qui est le Pinel, hein, il y a deux mois... presque pile, eh bien ça, oui, cet investissement pour faire du locatif privé, il a faux, 75% de nos concitoyens sont dans une location qui est privée, hein, le logement social ne suffit pas, donc il faut inciter nos concitoyens à réinvestir dans la pierre, dans ces moments un peu troubles où, alors bien sûr, placer son argent en financier, ça rapporte plus, mais une fois qu'on a un appartement, une maison, qu'on loue, quelquefois ça paye l'investissement. S'il y a une petite carotte de plus, telle qu'il y avait sur le Pinel, c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui le statut du bailleur privé. Alors on peut l'appeler comme on veut, mais en fait...
C'est en cours, hein. Valérie Létard, la ministre du Logement, l'a annoncé, il y a une mission qui travaille dessus. Vous en faites partie?
Alors on va en faire partie. On connaît ou on connaît pas tout à fait officiellement les parlementaires qui vont s'en charger. Enfin, Valérie Létard, elle a déjà annoncé depuis le mois de novembre dernier, oui, il va y avoir une mission. Et dans la presse.
Ça fait un moment. Et puis d'autres ministres avant elle aussi. Hein.
Ouais, mais pas aussi d'une façon déterminée, parce que pour une fois qu'on a... Pas pour une fois, je vais pas dire ça, mais on a une excellente ministre du Logement qui connaît parfaitement ses territoires, qui connaît parfaitement les Français, nos concitoyens, qui connaît parfaitement les professionnels, et surtout qui en vit. Et qui le montre et qui va le chercher. Parce que tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, je peux vous dire, ça aurait pas été Valérie Létard, on n'aurait pas obtenu toutes ces choses-là.
C'est grâce à elle.
C'est grâce à elle, parce qu'elle sait que 1 euro investi dans le bâtiment, ça en rapporte souvent 5, 6, 7, 8 ou 10. Ça, c'est déjà, vous savez, pour ces problèmes qu'on a eu de TVA, de rentrée fiscale, de recettes, dont tout le monde, le gouvernement, les gouvernements précédents se sont plaints. Bien sûr, quand on construit moins, on a moins de recettes, c'est assez évident. Mais elle sait aussi que c'est pour le bien commun, c'est pour loger les Français d'une façon confortable et abordable. Et je crois qu'elle a tout. Donc oui, il faut. J'avoue qu'on était assez soulagés quand
elle a été reconduite
et quand le budget est passé et qu'il n'y a pas eu nouveau remaniement et qu'elle était surtout reconduite. J'allais dire que si on m'avait posé la question.
Vous étiez pour sa reconduction.
Bon, tout le monde le savait. Que,
bon, elle a perdu. Évidemment. Elle est plus ministre de plein exercice, mais.
Oui, c'est ce qu'on demandait à l'époque, qu'elle soit le plein exercice. Et c'est vrai. Mais je crois que Monsieur Rebsamen, c'est un gars aussi de terrain, hein, dans sa bonne ville de Dijon. Il a montré ce qu'il fallait faire aussi. Hein. Donc voilà, c'est des gens d'expérience enfin. Qui aujourd'hui,
quoi il parle.
Oui, mais surtout répare les bêtises ou les décisions inappropriées qui ont été faites les deux dernières années sur les deux PLF précédents. parce que c'était pas le moment de squeezer les aides alors qu'on avait les taux d'intérêt qui étaient au plus haut, alors que les matériaux flambaient, que l'énergie flambait, qu'il y avait une instabilité mondiale, voilà. Et donc, on a coulé le logement neuf en moins de 2 ans. Donc aujourd'hui, écoutez, c'est de l'optimisme, c'est plus que de l'espoir.
Pourtant, alors il y a quand même quelques mesures qui ne sont pas favorables pour les investisseurs. Je parle par exemple au statut LMNP, loueur meublé non professionnel, qui a été retoqué, où les loyers ne seront qu'on amortissait ne seront plus amortissables, mais ils seront à réintégrer dans la plus-value au moment de la revente. Ça, par exemple, ça c'est pas bon non plus pour le bâtiment. C'est pas une mesure.
Alors nous, ce sont tous des mesures d'agents immobiliers, de promoteurs, de choses comme ça. Mais nous, bien sûr, qu'on milite avec eux, hein, avec. Je parlais tout à l'heure de logements sociaux, avec l'Union sociale de l'habitat, dans notre alliance de 10, hein, alliance pour le logement qu'on a créée maintenant il y a pile un an et demi, quand il y a eu ce CNR logement totalement défaillant, totalement raté.
Qu'elle servait à rien.
Moins que rien, puisqu'on a eu moins que rien en résultat. Donc, c'était catastrophique. Eh bien, cette alliance pour le logement a remis tous ces sujets-là. Alors oui, on s'est battu tous ensemble pour l'ensemble de toutes nos propositions. Ce que je dis souvent, on est 100% d'accord avec 80% de nos thèmes et de nos combats dans l'alliance. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà assez formidable.
Donc, vous allez tous dans le même sens, c'est ce que vous nous dites.
Oui. Alors après, voilà, on a dû lâcher certaines choses. Ouais. Et c'est pas lâcher. Mais quelquefois, on milite pour les grosses choses et puis...
Il y a des combats qu'il faut ne pas savoir mener.
Il y a des effets collatéraux quelquefois, mais c'est pas pour les abandonner. Le statut du bailleur privé, vous voyez, on l'a pas abandonné. Ouais. On l'a pas eu, ça s'est arrêté. D'ailleurs, on va très vite s'apercevoir, c'est une catastrophe parce que il y a plus de logement locatif en France. Donc voilà, donc il faut vite. Mais Madame Létard le sait, Monsieur Rebsamen le sait, Monsieur Bayrou le sait. Tant mieux, il faut aller beaucoup plus loin. Voilà. Mais certains combats, oui, sont peut-être passés à travers les mailles du filet, mais si on était tous au gouvernement, l'alliance des 10, si les 10 présidents et présidentes étaient ministres, ça irait beaucoup plus vite.
J'aimerais revenir sur la baisse d'activité qu'il y a eu en 2024, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, moins 6,6%. C'est la première fois qu'il y a une telle baisse d'activité ou alors, c'est déjà arrivé dans le passé?
De mémoire, oui. Après, si on remonte 17 ans avant, de 2008, ça a été une longue pente glissante, voilà, jusqu'en 2014 à peu près, où là, effectivement, ben, on perdait des pourcentages, on perdait des salariés, on perdait, etc., etc. Là, sur une durée aussi courte, oui. C'est-à-dire qu'on a perdu, on a perdu 15 milliards d'euros, hein, il faut le dire, 15 à 16 milliards d'euros en une seule année. D'où ces défaillances d'entreprise, d'où cette perte de salariés aussi immédiate. Mais,
vous avez perdu des adhérents?
Non, alors non, on n'a pas perdu d'adhérents. Ce qu'il y a, c'est que, malheureusement, quand les effectifs diminuent, à terme, on risque de perdre des adhérents, bien sûr. Pour l'instant, on est positif. Écoutez, ça fait 4 ans, on a une 5e année. Eh bien, écoutez, tant mieux. Mais moi, j'en suis très, très fier, très, très content. On a mis les choses en place aussi. Hein. Et c'est aussi pendant ces périodes de crise que l'on voit des entreprises non adhérentes, hein, souvent, qui nous rejoignent parce que, justement, ils voient la force de frappe de nos 15 directions. Et surtout, ce que j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, c'est très important pour eux, de la gestion jusqu'à la technique. Puis alors, la réglementation, on en a jusque-là. Si on n'a pas des spécialistes, quand on est une petite structure, on est perdu. Et malheureusement, même si on est un excellent professionnel, on le disait tout à l'heure, on peut couler sa boîte parce que on a fait même pas une faute de gestion, mais qu'on savait pas. Donc aujourd'hui,
gérer une entreprise, même une petite entreprise, c'est pas donné à tout le monde.
C'est pire parce qu'on n'a pas de directeur de ceci, de directeur de cela, de contrôleur de ceci, de cela. Donc il faut qu'on soit l'homme clé ou la femme clé. On fait tout à la fois et c'est là que c'est compliqué.
Un petit mot sur la qualification de la main-d'œuvre dans le bâtiment, justement, qui est souvent critiquée. Voilà, on entend que dans le bâtiment, les personnes sur le terrain sont de moins en moins qualifiées. Quel est votre avis là-dessus?
Totalement faux. Que les personnes dans le bâtiment sont de moins en moins qualifiées, c'est totalement faux. Il y a de plus en plus de personnes qualifiées. Et puis, de toute manière, nos centres de formation professionnelle sont de plus en plus numériques, sont de plus en plus sur la transition écologique, sur la formation, sur l'expertise. Donc moi je vois les jeunes et les moins jeunes qui sont aller en réinsertion, réorientation, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils font et tout ça. Aujourd'hui, je veux dire, tout le monde est né avec une application numérique, tout le monde sait s'en servir. Il y a tous ces choses-là. On se renseigne en permanence. Donc, que les personnes soient moins qualifiées, non, je ne le pense pas. C'est pas du tout mon avis. Alors, c'est vrai que quand on a des coups de boost comme les 4 dernières années, où vous l'avez dit, on a perdu 35 000 salariés, mais depuis 2020, on en avait gagné 120 000. Donc il faut y aller, il faut les former. Quelquefois, oui, peut-être que ça manque un petit bout de formation et qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, la FFB, elle est pour la qualification, pour la formation, pour tout ce qui est règles et apprentissage, donc toutes ces choses-là, parce que sinon c'est la porte ouverte aux rigolos, aux margoulins, à ceux qui ont justement aucune connaissance, souvent pas forcément des escrocs, mais des gens qui savent pas faire. Ouais. Et qui font des sinistres.
Donc, qu'est-ce que
font des bêtises.
C'est vrai qu'il y a des arnaques, hein. On l'a vu même dans la rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour essayer d'éradiquer?
Beaucoup plus de contrôle. Dans un département, dit rural, s'il y a 2-3 personnes, inspecteurs du travail, qui sont mobilisables sur l'ensemble des chantiers d'un département entier, c'est le bout du monde. Donc, il faut faire des contrôles, et pas seulement en journée, comme ce qui est fait, ou dans les entreprises où il y a un joli bureau chauffé ou rafraîchi. Il faut aller sur le chantier, le soir, le week-end, enquêter, et demander aussi aux fédérations de voir et de signaler des chantiers qui paraissent quand même... quelquefois, parce que...
Mais ça coûterait de l'argent, en état.
Ben oui, mais il n'y a pas d'autre solution, à part la sécurité privée, à part, nous, on n'est pas des dénonciateurs, hein, donc on peut signaler, une fédération peut signaler qu'il lui semble qu'il y a des travaux qui se passent.
Alors, mais c'est pas votre travail, à vous.
Ben, c'est compliqué, vous savez, le nombre de chantiers par jour qu'il y a partout, chez les particuliers, on peut pas mettre un contrôleur derrière à chaque fois. Nous, on y a contribué, hein, en créant, maintenant, il y a 8 ans, la carte BTP. C'est la FFB qui a poussé à avoir cette carte, la petite carte là que tous nos gars ont, d'ailleurs qui va devenir là dans ces quelques semaines ou quelques mois digitale. Donc dans leur smartphone, on ne pourra plus la perdre. Hein. On perd jamais son smartphone. Enfin c'est très très rare.
C'est rare.
Voilà. Donc ça c'est très bien. Mais aussi en luttant contre le travail illégal.
Hein, il y en a beaucoup.
Il y a un gros sujet sur la micro-entreprise aujourd'hui, où on est stigmatisé, où on est un peu bougé sur les réseaux sociaux, la FFB, puisque nous, de toute manière, on n'a pas changé notre cap, hein, on est droit toujours dans nos bottes. Depuis 16 ans, on dit que la micro-entreprise, il faut que ce soit un tremplin, il faut que ce soit limité dans le temps, pour faire quelques années, se former, s'améliorer, on parlait tout à l'heure de gestion d'expertise, et ensuite passer par le régime classique, de la fiscalité classique française, ce que font nos artisans qui travaillent seuls ou avec 1, 2 ou 3 salariés. Il ne faut pas qu'ils puissent être en concurrence déloyale avec des personnes qui s'installent et qui n'ont pas les mêmes conditions.
Voilà. Pardon, la TVA.
La TVA, 25 000. Mais aussi, moi, c'est surtout une question de délai. Je crois que le système de micro-entreprise, dans le bâtiment en tout cas, devrait être limité vraiment à quelques années et ensuite basculer parce que ensuite on se forme, ensuite on passe des qualifications.
Donc que ce soit une aide au début, un statut favorable au début pour...
Oui, puisqu'on veut tous une start-up nation, hein, voilà, ou créer l'esprit d'entreprendre, c'est très bien. Mais il n'y a pas de micro-entrepreneur médecin, il n'y a pas de micro-entrepreneur infirmière, il n'y a plus de micro-entrepreneur agriculteur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a la sécurité, il y a des normes. Eh bien, je suis désolé, mais...
Les médecins gagnent peut-être aussi mieux leur vie que certains ouvriers du bâtiment.
Oui, ben, peut-être, quoique, ça dépend. Ça dépend là où ils sont, parce que il y a des, malheureusement pour eux, hein, évidemment, ça dépend où ils s'installent. Mais dans le bâtiment, pourquoi pas? Pourquoi pas des salariés qui ont l'esprit d'entreprise, créent leur boîte en micro-entreprise, mais ensuite basculent. Ben, comme leurs confrères qui sont comme eux, et depuis 20 ans, depuis 30 ans, et qui travaillent sur un système fiscal équivalent, il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose. Ou alors, il faut faire un seul système, et comme ça, tout le monde sera content. Donc voilà, dans le bâtiment, en tout cas, il faut des qualifications, c'est dangereux, il y a des sinistres, il faut une grosse assurance, il faut toutes ces choses-là, parce que même si on fait une petite intervention, si on fait une petite intervention au 10e étage d'un immeuble et qu'on fait une fuite d'eau, de gaz ou quoi que ce soit, eh bien, c'est des millions d'euros. Voilà. Et derrière, On le voit aujourd'hui. Donc voilà, moi je stigmatise personne. Je dis tant mieux, mais il faut seulement que ce soit un tremplin. Et là-dessus, ça fait 16 ans qu'on est là-dessus. Moi, j'y resterai et on espère avoir des résultats. Donc la lutte contre la verrerie illégale, nous c'est ça. Et puis on a proposé aussi, et vous l'avez vu, et j'espère que vous allez le voir aussi, sur la rénovation énergétique, la limitation de la sous-traitance à deux niveaux. Parce qu'après, moi je le dis en tant que brisance, après il y a des risques de triche. Donc évitons tout ça. Et sur le neuf, c'est pareil. Deux à trois niveaux de sous-traitance et puis on arrête. Parce que quand on est sous-traitant de quatrième, cinquième, sixième, j'ai vu même septième, huitième, neuvième niveau, c'est qu'on triche. Donc c'est qu'il y a de la triche. Ouais. Je parle dans le bâtiment. Je parle pas dans d'autres secteurs où l'industrie, évidemment, c'est une sous-traitance d'expertise. Voilà. Nous, dans notre secteur.
Il n'y a pas besoin d'avoir autant de degrés de sous-traitance. Un petit mot peut-être sur le hors-site. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors c'est très répandu en Allemagne chez nos voisins. Certains, alors les avis sont assez mitigés sur ce moyen de ce mode de construction. Je rappelle que c'est des pans entiers d'immeubles, par exemple, de bâtiments qui sont préfabriqués en usine. C'est pas du tout le même travail en fait que sur les chantiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que
c'est très bien? Il faut de tout. On a souvent dit que la fédération du... Non, la préfabrication, le hors-site, de plus en plus, je crois que le pourcentage, je pourrais me tromper, mais très important, d'entreprises qui ont un atelier et qui préfabriquent. Ça va des petites entreprises qui préfabriquent voilà, des choses qui vont aller installer directement sur site, à des très grosses entreprises aussi, qui sont capables pratiquement de construire des maisons en kit.
Oui, oui.
Et ça s'est vu. Malheureusement, le marché n'est pas là. Toutes celles qui n'ont fait que ça, aujourd'hui, n'existe plus. Et c'est pareil en Allemagne, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Angleterre. Et tous les grands promoteurs, les petits promoteurs qui ont essayé aussi les maisons en kit ou de la préfabrication, ils sont même allés chercher il y a quelques années au Royaume-Uni parce qu'en France, il n'y en avait pas assez, ou c'était brinque-ballant, eh bien, ils se sont plantés. Pourquoi ? Parce que ça coûte pas moins cher. Ça va plus vite, certes. Ça coûte pas moins cher, et c'est vrai qu'en centre-ville, pour densifier, c'est très bien. Mais surtout, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas des groupes de promoteurs importants, il n'y a pas des administrations, il n'y a pas l'État, il n'y a pas des groupes d'usines ou de privés, ou même de logements sociaux qui se sont dit, on va construire des centaines, des centaines.
Par exemple, le réseau Procivis.
Que je connais très très bien, Yannick Born.
Procivis Polylogie, pardon.
Pardon.
Qui mise sur le hors-site, qui dit que dans quelques années, 50% de leurs constructions utiliseront le hors-site.
Ben, alors, ça, je sais pas exactement comment ils construisent de logements. Si c'est des milliers, tant mieux. Et tant mieux si ça marche. C'est ce que je dis tout à l'heure. Vous savez, il n'y a pas quelque chose, une seule chose qui va fonctionner. Si ça peut fonctionner en densification, en rapidité, pour nos concitoyens, pour qu'ils aient enfin un logement, tant mieux. La seule chose, c'est que les plus petits, les moyens et les plus gros, je donnerai pas de nom parce que on va tout de suite les reconnaître et je veux pas parler pour eux, qui ont essayé encore il y a quelques années, leur dernier salon, ils y étaient plus. Pourquoi? Mais il y a pas de demande. Il y a pas assez de demande. Donc malheureusement, c'est, vous savez, l'industrie, hein, on a un point minimum à atteindre. Si on n'en fait pas 1000 et qu'il en faut 1000 pour équilibrer, eh bien, on coule sur 2-3 ans. Eh bien, aujourd'hui, c'est le problème. Donc oui, il faut développer tout ça. Il faut que les promoteurs, comme vous dites, sûrement, et accélèrent peut-être tout ceci. Mais attention, beaucoup ont l'impression que ça coûte moins cher. C'est faux. Quelquefois, ça coûte plus cher. Ça va un petit peu plus vite, mais ça va peut-être un peu moins de nuisance en centre-ville, et tant mieux. Donc faisons-le.
C'est des conditions, ça permet aussi aux artisans du bâtiment d'être dans de meilleures conditions. C'est vrai qu'ils sont pas dehors quand il fait froid, quand il pleut. Là, ils sont.
Non, oui. Vous n'êtes pas. Bah, les murs se construisent plus vite. Oui, peut-être le hors d'eau hors d'air, comme on dit, se construit peut-être plus vite. Oui, mais effectivement, parce que la fabrication va plus vite. Okay. C'est déjà préfabriqué parce qu'il faut bien qu'il y ait des avantages. Parce que c'est pas moins cher. Il faut au moins que ça aille plus vite et que les raisons de sécurité, toutes ces choses-là, non, il faut exactement la même chose parce que voilà, c'est de la construction. Donc c'est vraiment des pros, réservés à des pros, et il faut qu'il y ait le marché, il faut que de plus en plus de clients, donc c'est en général des gros clients, hein, voilà, des gros promoteurs ou autres, y aillent et disent voilà, on va faire des milliers de logements cette année, on vous garantit un volume de. Je sais pas si ça peut se faire aussi dans le monde concurrentiel. Mais en tout cas, s'ils n'ont pas ce volume-là, eh bien, malheureusement, en 2025, ça marche pas comme ça devrait marcher.
En 2026, il y aura donc les élections municipales. Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie? On entend souvent que à l'approche des élections, pour pouvoir se faire élire, réélire, les maires ou les futurs maires, voilà, freinent les panneaux de contrôle. C'est déjà le cas, hein, quand je discute en off avec les promoteurs, c'est ce qu'ils me disent, hein, là, ça y est, ça commence. Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie? Parce que c'est vrai que, c'est un gros sujet, ça.
Dans le cycle électoral, ce qui va plutôt bien dans ce cycle-là, normalement, c'est les bâtiments administratifs, parce qu'on veut toujours construire et couper le ruban, là, quelques mois avant l'échéance, en disant, ouais...
Regardez, moi, je ne bâtis pas, parce qu'il faut expliquer, hein, c'est alors, que les habitants, voilà, de en France, les Français, oui. N'aiment plus, en tout cas, quand on construit dans leur...
Eh bien, je trouve que ça change.
Ça change.
Alors, sur les bâtiments administratifs, toutes ces choses comme ça, c'est plutôt une fierté d'ouvrir une école, une rénovation de l'école.
Non, c'est les logements qui passent pour.
Voilà, exactement. Un gymnase, tous ces trucs-là, ou une mairie ou quoi que ce soit, rénover, ça plaît beaucoup, et ce cycle est là. Malheureusement, en 2026, donc juste avant, c'est les années que l'on vit là aujourd'hui, 2024-2025, il y a moins d'investissements des communes, parce que certaines n'investissent plus parce qu'elles ont peur de l'avenir. Il y a les dotations qui sont un peu moindres au niveau des départements, etc. Donc là, même, je veux dire, la courbe n'est pas assez haute cette année. Donc, on va perdre de la construction. Et ce que vous dites était vrai, le maire bâtisseur, maire battu, comme on disait, je trouve que quand même ça change de plus en plus. Alors, c'est peut-être, ça frémit peut-être, mais je trouve que dans certaines régions, dans certaines villes, et j'ai vu aussi...
Par exemple.
Ouais, ben oui, oui, exactement. Pourquoi? Parce que nos concitoyens, ils veulent être logés. Ils veulent s'agrandir parce qu'ils ont bébé de plus, ils veulent une chambre de plus, ils veulent, après, que leurs enfants qui ont grandi, soit étudiants quelque part, donc trouvent un logement ou un petit logement ou un studio, quoi que ce soit. Derrière eux, ben, ils veulent, voilà, peut-être changer de locataire, devenir propriétaire. Et puis, alors, arriver à la retraite aussi, ou investir pour la retraite, et arriver à la retraite, avoir un logement aussi adapté. Et aujourd'hui, on lit souvent, le parcours résidentiel est bloqué depuis deux ans et demi. J'espère qu'on va arriver à le débloquer. Donc, à un maire, à un élu local, on lui demande plus trop, quoique ça peut revenir très très vite, un emploi, on lui demande un logement. Tous les élus que je croise partout, ils me disent, on ne demande plus un boulot aujourd'hui, c'est on demande un logement. C'est pas devant le balcon en plein sud des habitants actuels, hein, mais un peu décalé, voilà, on a une terre en friche, etc. On va reconstruire quelque chose de très joli, de machin, etc.
Dis le mot magique, friche.
Oui.
Parce qu'il y a le ZAN.
Et parce que je voulais pas dire qu'on allait prendre sur les terres agricoles. Je vais pas dire ce que je veux pas dire. Et puis aussi, des belles résidences, mais aussi du logement social qui, aujourd'hui, je le dis, chez beaucoup de bailleurs sociaux, sont de belles résidences. Mmh. Moi, en tant que premier choisis, quand je participe à une construction d'une résidence sociale, c'est plus des cages à lapins comme on les construisait dans les années 70.
En qualité,
les logements sociaux, et je le dis, quelquefois, sont de meilleure qualité que certains logements privés qui auraient été faits peut-être très vite.
Promoteur,
j'en sais rien. En tout cas, investisseurs qui étaient un peu pressés et qui n'ont pas pris, qui connaissaient pas le tissu. En général, un bailleur social connaît son tissu d'entreprise, connaît ses élus locaux, parce que c'est un travail de longue haleine, sur plusieurs années, et donc c'est aussi un gage de qualité.
Un petit mot pour vous qui êtes dans le bâtiment, vous avez toujours été dans le bâtiment, comment c'est venu, un petit mot pour ceux qui se lancent, pour les jeunes, comment est venue cette passion, vous avez toujours su que je voulais...
Alors moi c'est une question familiale, hein. Quand je suis remonté jusqu'aux années 1850 et quelques, mes ancêtres étaient plâtriers.
Bon, d'accord.
Bon, mon père a dévié, il a été plombier, fasciste. Donc voilà.
Mais toujours dans le bâtiment.
Voilà, ils ont toute la lignée, les cousins, tout ça. Ont pratiquement toujours été dans le bâtiment, donc c'est très bien. Donc moi j'ai vécu enfant jusqu'à mes 18 ans. Presque dans l'entreprise du bâtiment et souvent quand j'étais gamin. Au fond de la deux chevaux camionnette, ou quand je dis dans dans les vieux fourgons ou quoi que ce soit. Et donc voilà, donc j'ai eu ça dans la peau aussi. Et alors après, j'ai fait un peu d'informatique, un peu quelques années, voilà, pour histoire de dire que voilà, j'avais fait peut-être autre chose. Et puis je suis revenu quand il a fallu un petit peu mettre 2-3 ordinateurs dans l'entreprise. Et de fil en aiguille, j'y suis resté. Et ça fait maintenant juste 30 ans.
Et ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement sur...
Ben, je crois que c'est assez formidable. Moi, j'ai commencé, on était juste à peu près une douzaine d'ailleurs, hein, voilà, dans l'entreprise. Et donc, de voir l'évolution, de voir... c'est des métiers du concret, hein, et l'évolution technique et technologique. Alors, c'est vrai que nous, en chauffage, climatisation, régulation, toutes ces choses-là, en capteur, on a de la chance parce qu'on voit énormément aussi l'évolution technique et technologique de tous ces produits-là. Donc, c'est très motivant. Mais c'est aussi très motivant quand on passe, ben moi, dans ma région ou dans mon secteur du Périgord, et mes gars et mes filles sont très fiers quand ils ont les enfants dans la voiture, qui disent ben ça c'est papa qui a participé, ça il a participé. Et c'est vrai qu'un bâtiment c'est quasiment éternel. Et donc il y a cette fierté aussi d'avoir créé quelque chose de concret.
On laisse sa marque sur.
Je crois qu'il y a pas grand. On parle BTP. Oui, on peut construire beaucoup de produits industriels. Mais bon, un bâtiment, c'est là pour 100 ans, ouais. 200 ans, peut-être plus. Voilà.
Et les pyramides, elles sont là, mais c'est très longtemps.
Des milliers d'années. Moi, je suis de Lascaux, donc 17 000 ans. Hein, déjà, ils étaient peintres. Ah ben c'est voilà. Déjà pas mal. Hein. Ouais. Voilà, ils construisaient pas grand-chose, mais en tout cas, ils étaient au fond d'une grotte en peinture. Et un peintre, ben, c'est un peintre du bâtiment aussi. Ouais. Donc, ça a commencé ben, il y a 19 000 ans, exactement. Donc, tout ça, c'est des choses du concret. D'ailleurs, vous voyez, c'est une anecdote, je n'ai pas fait exprès, mais en parlant de Lascaux, j'ai participé à la construction de Lascaux 4, qui est le fac-similé qui a été fait par un grand architecte norvégien qui est Snøhetta, qui a fait plusieurs bâtiments à Paris monumentaux. Eh bien, les entreprises qui ont participé à ce chantier, le grand architecte en chef a demandé que tous les noms des ouvriers qui avaient travaillé à Lascaux soient inscrits dans le grand hall d'entrée de Lascaux. Mais j'ai trouvé, c'était la première fois, c'était un truc extraordinaire, c'est-à-dire que nos gars, nos filles qui avaient bossé sur ce chantier, à vie, et même plus, avaient leur nom écrit un peu comme dans la grotte 20 mètres derrière.
C'est une reconnaissance. C'est
assez incroyable. Et bien ça, c'est quelque chose de formidable. Citer le nom des entreprises, c'est très bien, qui ont travaillé, et ils le font pas tous, hein, ils le font pas tous, mais inscrire le nom des gars et des filles qui ont travaillé sur ce chantier, je crois que c'est une reconnaissance vraiment totale de métier, j'allais dire... plus que millénaire et surtout intemporel.
Vous évoquez vos enfants, est-ce que ils sont dans le bâtiment aussi ?
Alors j'ai mon fils qui est plutôt dans l'hôtellerie restauration mais qui se pose quelques questions, hein, voilà.
Ça le titille.
Ben oui, parce que je dis quand tu es dans l'hôtellerie restauration et que tu sais acheter des marmites, des produits, des voilà de l'alimentaire, ben tu dois savoir acheter des chaudières, des tuyaux de gaz. Bon, c'est une plaisanterie, mais pourquoi pas, voilà, il y a une trentaine d'années, donc c'est quelque chose peut-être, d'une façon ou d'une autre, que j'espère aussi, et voilà, et puis ma fille, elle est partie, elle vit en Corée du Sud, vous voyez, donc c'est aussi beaucoup de technologie montée.
Hyper intéressant.
Voilà.
Elle a des choses peut-être à vous apprendre pour le secteur.
Ah ben, je crois que oui, énormément, ouais. Quand on voit, d'ailleurs, on est allé avec le COMEX de la FFB, et vous voyez, là, l'innovation, au CES de Las Vegas, il y a 2 ans, on a vu, il y avait pas mal de Français, il y avait une centaine de start-up françaises, dont quelques-unes sur le bâtiment, mais à côté, il y en avait 5 fois plus, la Corée du Sud, c'est assez incroyable, c'est ce pays démocratique, de 51 millions d'habitants à peu près, un petit peu moins que la France, qui est capable d'innover. Donc voilà, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de cerveau, on a beaucoup d'intelligence en France, bien copions ce qu'il y a de meilleur, surtout dans ces temps un peu d'incertitude où on a l'impression que voilà, on est un peu seul, non, mais voilà, il faut travailler là-dessus.
Les pays, selon vous, de qui on a le plus à apprendre, c'est, vous l'avez dit, États-Unis.
Non, ben je crois que
l'Asie, la Corée du Sud.
Bah peut-être, mais après il y a des schémas qui sont voilà, il y a aussi travailler, mais prendre aussi du bon temps et du repos, c'est bien. Hein. Parce que en Corée du Sud, eux-mêmes, hein, veulent pas trop prendre de vacances.
Ils ont une
semaine ou deux de vacances, c'est le grand maximum, mais surtout pas plus. Hein, je vous dis, c'est un pays qui décide par eux-mêmes. C'est un pays démocratique. Donc voilà, comme le Japon et tout ça. Mais je crois qu'il faut tout un medley. Mm. Et finalement, je pense qu'en France, on est plutôt pas mal parce que pas grand monde voudrait aller vivre ailleurs. Avec tout ce qu'on a pu construire depuis ces siècles et ces siècles, mais voilà, il y a beaucoup de choses aussi à améliorer et à prendre des idées un petit peu partout sur la planète.
Alors on va terminer avec une petite interview, c'est une interview de Tac au Tac. Donc je vous donne un mot, vous me répondez par un mot, d'accord ?
Un seul mot. Hein.
Un seul mot, c'est très dur, c'est un exercice très dur. Chantier.
Innovant.
Écologie.
Transition.
Macron. Je vous pose une colle, là.
Vous l'auriez posé il y a quelques années, j'aurais répondu espoir.
Ouais.
Voilà.
Et aujourd'hui,
je dirais, soigner sa fin de mandat. Soigner sa fin de mandat. Il y a plusieurs noms,
j'accepte. Réussite.
Travail.
Élection.
Nécessaire et démocratique.
Et enfin, vacances.
Nécessaire aussi.
Merci beaucoup, Lily Salon.
Merci.
Alors, juste pour finir, un mot pour les personnes du bâtiment, les entreprises, les artisans qui souhaiteraient vous rejoindre. Comment ça se passe? Comment devenir adhérent de la FFB?
Ben, comme je vous l'ai dit, on est présent, il y a une fédération dans tous les départements, hein, donc une agence avec des bureaux, avec des gens compétents. Et donc, simplement, tapoter sur son smartphone, fédération du bâtiment de son département. Et vous serez bien accueillis. Et puis surtout, vous pouvez aussi profiter pendant quelques jours, quelques semaines de conseils pour voir comment fonctionne la Fédération du bâtiment.
Avant d'être adhérent.
Bien sûr. Donc c'est ça aussi que l'on fait souvent. Et on leur donne tous les éléments, les premiers éléments pour voir l'intérêt qu'ils peuvent avoir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pendant ces périodes de crise, parce qu'on est en crise encore aujourd'hui, malgré, je vous l'ai dit, cet optimisme, cet espoir que l'on a dans quelques mois. Et en tout cas, on a encore. Donc oui, ce sera un lieu commun de dire tous ensemble, on est plus fort. Et c'est clair, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on a besoin de toutes ces connaissances, de toute cette expertise. Parce que, je le répète, le bâtiment, il faut qu'on en soit fier de notre secteur. C'est un secteur intelligent et agile, mais à plusieurs.
Ça vaut trop bien d'être adhérent à la FFB. Est-ce que vous pouvez me donner une fourchette de prix?
Oui, c'est environ 200 euros par salarié, à peu près, hein, qu'il faut compter. Donc voilà, c'est à peu près ça.
Eh bien, merci beaucoup pour cette interview.